Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu organises un apéro grignatoire avec Diderot, Mozart et Chopin. Tu te mets au piano avec la boule au ventre face à tes héros. Tu te répètes dans la tête les leçons de ta prof. Écouter le silence, faire l'amour avant le cours pour avoir le doigté plus souple. Jouer pour un et pas pour tous. Mozart et Chopin reprennent des cacahuètes. Diderot picole sec et toi tu joues du piano debout. Dans tes rêves, il y a un drôle de type qui fait une partie d'échecs contre lui-même. C'est Aurel, le consul de France en Guinée. Il a un accent roumain, des fringues d'un autre siècle, l'alarme un peu trop facile face à l'injustice. C'est un idéaliste qui s'ennuie dans son placard doré de diplomate des visas, en picolant du vin blanc et en rêvant à Belmondo dans L'Homme de Rio. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, médecin, ex-French doctor, ex-ambassadeur de France au Sénégal. C'est le plus jeune des immortels de l'Académie française. Le suspendu de Conakry, c'est son dernier thriller diplomatique avec son héros anti-héros Aurel le consul et c'est aux éditions Flammarion. Bonjour, bonsoir Jean-Christophe Ruffin.
Bonsoir Laurence.
Ce fameux consul, c'est votre babel à vous en fait. C'est votre Belmondo, non?
Oui, enfin, il en est quand même loin. Bah, disons, c'est un double commode, parce que ça me permet, il me permet de parler de choses que j'ai vues souvent, mais que je ne pourrais pas forcément révéler, parce que en tant qu'ancien diplomate, je suis tenu à un devoir de réserve. Pas lui, parce que lui, il se permet tout.
Un double roumain, enfin vous picolez moins que lui dans la vraie vie, non? Parce qu'il
non,
picole quand
rien.
Même lui. Hein.
Oui, et puis il boit du toqué parce qu'il est originaire d'Europe centrale, il vit dans la nostalgie de la Mitteleuropa et de ses charmes, qu'il a fui pourtant, parce qu'il a quitté la Roumanie de Ceaușescu, voilà. Et il boit du vin blanc. C'est peut-être une différence entre nous, c'est que moi je ne bois pas du vin blanc le soir.
C'est
je
ça.
Ne bois que du rouge.
Et le soir aussi peut-être, ou pas. Et on reparlera de cette figure de l'héroïsme, anti-héroïsme. Mon second invité est aussi de l'espèce polymorphe, dramaturge, romancier, essayiste, cinéaste, membre du jury de l'Académie Goncourt, directeur du théâtre Rive-Gauche à Paris. Madame Pilinska, le secret de Chopin, c'est chez Albin Michel et c'est plus qu'une leçon de piano. Bonjour, bonsoir Eric Emmanuel Schmitt.
Bonsoir.
Une fable réelle, inspirée d'une vraie prof qui fut la vôtre, une prof de piano. Elle aussi, elle est tout sauf académique, hein, on en reparlera.
Oui. Bah, c'est un bonheur d'avoir une... Je sais pas si elle m'a appris à bien jouer du piano, mais elle m'a appris à bien vivre. Parce que ses leçons de piano étaient des leçons de vie.
Et le son réel, même si de loin ça peut paraître farfelu, mais quand elle vous disait « il faut que tu fasses l'amour avant de prendre un cours », c'était réel ça.
Oh, il y a une part d'imagination
ouais,
quand même.
Doute.
J'ai développé. Mais oui. En fait, je pense que quoi que ce soit qu'on apprenne, on apprend plus que ce qu'on apprend. Je veux dire, l'apprentissage, c'est la découverte de soi, de ses limites, c'est apprendre à se concentrer, à se déconcentrer aussi, pour que les choses adviennent. Et moi, c'est sur le piano que j'ai appris tout ça. Et en fait, ça m'a sans doute plus servi pour écrire que pour jouer du piano.
Écrire du piano, écrire piano fermé, oui. Comme elle disait aussi. Vous vous connaissez dans la vraie vie, je crois savoir. Hein. Vous tutoyez en arrivant tout à l'heure.
Oui,
là,
je ne sais pas si on peut continuer officiellement à la radio.
Enfin, ce que vous voulez.
On dit vous, mais effectivement...
L'entre-soi.
L'entre-soi, mais bon, on fait le même métier, je veux dire.
Oui.
Et depuis longtemps, hélas.
Hélas.
Autant mieux.
Tant mieux.
On fait partie des...
Tant mieux.
Oui, c'est ce que je dis aux jeunes auteurs qui ont un succès. Je leur dis, dans ce métier, la difficulté est quand même de durer. Alors Eric fait partie des auteurs qui durent, et tant mieux. Disons qu'on fait partie des indéracinats.
Oh, faites gaffe, hein, parce
que dégagisme.
Ah oui, mais ça, on en est conscient.
De raconteur d'histoire, l'un comme l'autre, avec un imaginaire hors cadre, je disais polymorphe tout à l'heure. Éric Emmanuel Schmitt, j'avais lu quelque part, vous disiez, j'ai l'impression d'être un verger qui porte des fruits différents.
Oui, parce que parfois, les fruits sont un roman, parfois ce sont des nouvelles, parfois ce sont des pièces de théâtre, parfois même un film, parfois une sorte d'essai. Oui, donc il y a des poiriers, des figuiers, des pommiers, des orangers.
Donc sur le même arbre, il y a...
Dans le verger. Ouais. En fait, moi j'obéis. Je ne sais pas comment fait Jean-Christophe, mais moi j'obéis au sujet et au personnage. Et si le sujet et les personnages me disent « je suis un roman », j'écris un roman. S'ils me disent « je suis une pièce de théâtre », j'écris une pièce de théâtre. En fait, j'ai l'impression d'être l'esclave de mon imaginaire, si vous voulez. Oui, non mais vraiment. Enfin, j'ai mis toute ma vie au service de mon imaginaire, en essayant de... Donc, je suis devenu un écrivain, comme vous dites, polymorphe, mais sans du tout avoir la volonté d'être polymorphe. Parce qu'à chaque fois, il fallait obéir au livre.
Esclave consentant. Entend obéissant, ça vous ressemble ça ou pas, Jean-Christophe Truffaut?
C'est Bernanos qui disait, quand j'étais petit, on m'a toujours dit, sois sérieux, etc. Et puis maintenant, disait-il, ce sont mes rêves qui me font vivre. Mmh. Ouais, c'est beau.
En parlant d'écriture, vous citez souvent Jean-Christophe Ruffin, Kundera, qui parle des écrivains musiciens ou des écrivains peintres. Mmh. Vous dites plutôt écrivain...
Moi, je suis définitivement peintre, parce que là, même si j'ai une espèce d'infirmité à l'égard de la musique, c'est-à-dire un jeune genre je n'en joue pas. C'est d'ailleurs un des regrets de ma vie. C'est-à-dire que,
on ne peut pas savoir tout faire non plus. Les destins multiples.
Mais l'autre jour, je parlais de ça avec Eric Orsena, par exemple, qui me disait, lui, à son âge, et pourtant il est un petit peu plus âgé que moi, il vient de se mettre à apprendre le piano. Alors, moi, je me dis, si j'apprenais le piano à mon âge, j'arriverais peut-être à jouer au clair de la lune, tu vois, mais peut-être.
Moi, j'ai des amis qui ont commencé à cet art et qui arrivent à quelque chose de très correct.
Correct.
Non, mais c'est-à-dire, pourquoi joue-t-on? Moi, je fais du piano depuis l'âge de 9 ans, mais je vais pas jouer en public. Mais le piano, pour moi, est une paire de lunettes qui me permet d'ouvrir les partitions et de lire la musique sur les touches, quoi. Ouais. Donc, j'adore déchiffrer et c'est ça que ça me donne.
En parlant de paire de lunettes, c'est drôle parce que, alors l'un comme l'autre, vous avez une double vie, Éric Emmanuel Schmitt,
au moins,
triple vie, quadruple vie.
Pour qui me prenez-vous?
Oh! Vivez du côté de la campagne à Bruxelles.
Oui.
Jean-Christophe Ruffin, vous allez souvent du côté du
je suis dans Haute-Savoie,
Mont-Blanc, voilà. Bruxelles, la Belgique, vous avez pris la nationalité il y a
j'ai la double nationalité.
Double nationalité, voilà. Et on dit souvent que pour les Belges, la question d'identité, ça reste flou. C'est ça qui vous plaît? Restons flous dans ce monde qui n'est pas toujours très clair, d'ailleurs.
C'est tellement juste ce que vous dites, à savoir que aucun Belge ne sait ce que c'est que d'être Belge. Est-ce que c'est parler quelle langue? Il y en a 3, officiellement. Le flamand, le français, l'allemand. C'est appartenir à quelle communauté? C'est avoir quelle histoire? Donc, en fait, l'identité belge est problématique. Et ça, je trouve que c'est un miroir parfait. Parce que pour moi, la question d'identité, c'est une question, c'est une béance même. On a une identité par accident, par histoire, par hasard, par circonstance. Les Belges sont très très à l'aise avec cette béance identitaire. Ça leur évite certaines sottises.
Et certitude aussi, peut-être.
Oui, et puis ça fait qu'aussi une des armes de défense contre cette béance identitaire, c'est l'humour.
Oui.
Voilà, puisque tout Belge est minoritaire.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui définit au fond le Belge.
Pas dans la domination. Vous vous sentez flou, vous, comme homme?
Vous demandez ça brutalement. Pas trop, non.
Je me sens clair.
Non, c'est-à-dire que... Alors, je suis né, moi, dans le centre, le cœur de la France, à Bourges, pour ne pas la nommer, cette ville, qui a toujours été française. C'est-à-dire que même à l'époque où les Anglais occupaient la moitié du royaume et les Bourguignons l'autre tiers, disons, le roi était encore le roi de Bourges. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai aucune espèce de lien avec l'extérieur, d'une certaine façon, et j'ai tout découvert par choix. Parce que j'ai voyagé, parce que je me suis ouvert vers les autres, mais mes origines, moi, me donnent pas du tout cette impression.
Voilà, des imaginaires sans frontières, voilà pour la partition lyrique jusqu'à minuit. Vous postez vos songes également sur notre page Facebook et à nous. La rêve partie anti-blues du dimanche soir, mais donnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquier, la réalisation. Nadia Chouguier, la préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, notre unique rêveur, Kevin Pelot. Belle soirée. Most of them gonna talk, I know. Most of them gonna talk, I know.
of them gon' fall. I know, I know. We gon' bet it all. I know. We gon' bet it all. I know. Power girl, I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna. Power girl, you've been running through my section all day. Times, but I still have you. Show me how you do it like that. Carrying a brother is no easy on your back. I know most of them gon' talk. I know, I know. Most of them gon' fall.
C'est Khalid sur France Inter et ce soir nous explorons le cinéma intérieur de nos deux invités, les écrivains Jean-Christophe Ruffin et Éric Emmanuel Schmitt.
Dans tes rêves.
Il ne veut rien comprendre, il rêve des choses impossibles. Mais pourquoi impossibles? Puisque je les rêve ces choses.
Laurence Garcia sur France Inter.
Et comme à chaque fois, messieurs, nous réexplorons l'imaginaire de l'enfance, qui explique aussi qui l'on devient. Je vais commencer par vous, Jean-Christophe Ruffin. Comme vous le disiez, il fait des gros yeux. Vous êtes donc
non,
né.
J'ai peur.
Né à Bourges, voilà, enfant du Cher, élevé par vos grands-parents jusqu'à l'âge d'une dizaine d'années. C'est vraiment grand-père mon héros, papy mon héros, ce médecin de campagne, ce résistant qui vous a transmis aussi peut-être ce goût des épopées historiques.
Bon, mon héros, il n'avait plus trop l'air d'un héros quand je l'ai connu, parce qu'il c'était un vieux monsieur qui revenait de 2 ans de camp de concentration, donc je veux dire, c'était pas du guéclin. Hein. Mais sa vie était comme ça, entourée, nimbée d'une espèce de réputation, en effet, d'engagement. Il y avait ces guerres qui s'étaient produites, dont on ne voyait plus la trace. Mais c'est vrai que c'était une figure très, très riche et mystérieuse. Propice au rêve, justement.
Propice au rêve, déjà. Et à l'âge de 10 ans, votre maman vous fait revenir à Paris. Elle était...
Venir,
même. Hein. Elle travaillait à Publicis, c'est ça
Ouais, ma mère, vous savez, elle fait partie de ces femmes qui ont poussé la porte, j'allais dire, de la société à coups de pied, parce que elle n'était pas du tout... Mes grands-parents ne voulaient pas qu'elle fasse d'études, elle n'en avait donc pas fait. Elle avait commencé comme on faisait faire aux filles à ce moment-là, quand elles voulaient travailler, c'est-à-dire qu'elle en avait appris à taper la machine. Elle vivait dans des conditions très difficiles à Paris, jusqu'à ce que, en effet, quand j'ai eu 10 ans, elle a eu suffisamment de moyens pour que je puisse la rejoindre. Et après, elle a continué avec une carrière... dans la publicité, elle a fini comme directrice de la communication du Crédit Agricole.
L'ascension sociale, la méritocratie.
Mais où elle a laissé beaucoup de plumes. Elle est morte très jeune. Vous savez, aujourd'hui, on parle du féminisme, etc. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais à l'époque, par exemple, pour avoir un compte en banque, il y avait des comptes femmes.
Demander l'autorisation au mari.
Elle a eu un des premiers comptes femme s'est démarquée comme ça, au Crédit Agricole, justement. On se rend pas compte, hein, c'est pas si lointain, tout ça.
Et pour l'ado, le gamin que vous étiez, Jean-Christophe Ruffin, justement, quand on se retrouve à la fac de médecine, où il y a aussi beaucoup de fils et de filles d'eux, est-ce que la revanche sociale fait partie aussi du moteur de réussite, en disant, bon...
Moi, j'ai jamais été animé par l'idée de revanche sociale, en fait, bon, parce que j'ai pas eu l'impression d'être une victime, puis j'aime pas cette idée de se comporter comme ça. Non, mais simplement, il y avait effectivement des inégalités fortes, surtout que, comme toute mère qui veut que son fils unique fasse des études, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au lycée Janson, par exemple.
Dans le 16e arrondissement.
Oui, mais ils m'ont fichu à la porte très vite, parce qu'ils se sont rendu compte que, voilà, c'était pas leur genre de beauté, donc ils m'ont mis dans une annexe, un autre lycée moins bien, si vous voulez.
Pourquoi voilà. Vous n'avez pas les bons codes, les bonnes fringues?
Parce que ma mère travaillait, que quand les autres arrivaient avec un short de gymnastique où il y avait leur nom qui était cousu sur le revers de l'élastique, moi j'arrivais, j'avais jamais ce qu'il fallait. Enfin, voilà, j'étais un gamin, aujourd'hui c'est très banal, mais si vous voulez, enfant de divorcé à cette époque, c'était pas simple, si vous voulez, dans un lieu de grande conformité comme ce lycée Janson. Alors moi, il m'invite périodiquement à des commémorations d'anciens élèves, etc. Et je refuse catégoriquement d'en faire partie. Je leur dis, vous m'avez foutu dehors il y a 40 ans.
Ah, c'est la rancune tenace quand même.
Ben, c'est le seul. Je suis pas très rancunier dans la vie, mais alors ce lycée-là, oui, je veux pas en entendre parler.
L'enfant qui est en lui qui est resté rancunier.
C'est ça. À 20 ans, c'est l'âge du tout est possible. Alors, on a beaucoup parlé de 68 ces derniers temps. Et vous, il y a toute l'aventure, bien sûr, pionnier de Médecins sans frontières, les fameux French Doctors dont vous étiez. Souvenir.
Nous, les médecins de la Croix-Rouge internationale, qui avions signé un document mentionnant qu'on ne révélerait pas ce qu'on avait vu, comme toujours, et c'était presque légitime pour cette première génération de l'action humanitaire. Nous avions ces enfants dans les bras, nous les soignions pendant 3 semaines, et puis, ils retournaient dans leur village, ils revenaient dans un état pire encore, et ils mouraient. Il fallait alerter l'opinion publique, nous l'avons fait.
Eh oui, votre ex-camarade Bernard Kouchner qui défend le droit d'ingérence humanitaire, là c'était à l'époque, il se remémorait l'histoire de la guerre du Biafra en 71. À l'époque, vous, comme les autres, vous étiez vraiment convaincu que vous pouviez changer le monde, vous pouviez peser sur la marche du monde.
Non, je crois que c'est le contraire. L'humanitaire, le mouvement humanitaire comme sans frontières s'est développé au moment où on a compris qu'on ne pourrait pas changer le monde avec les autres techniques, si vous voulez, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est la gueule de bois idéologique, comme disait Ronnie Broman, où on était plus communiste, où on était plus révolutionnaire, si vous voulez, où il y a eu, voilà, tout un coup, le masque est tombé sur un certain nombre d'utopies du XXe siècle, et où il nous restait ça, c'est-à-dire, il nous restait le prix de l'humain, le prix de l'être humain, voilà. Mais c'est plus par défaut, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que ce soit pas un beau combat, mais c'est un combat qui est né sur les décombres des autres combats politiques.
Les fameuses causes perdues aussi, pour reprendre un titre de
la police. Et oui, les causes perdues. Oui. Mmh. Voilà, on avait perdu nos causes à cette époque-là, alors que la génération d'avant, justement... Moi, je suis un 68 art très tardif. En fait, j'étais gamin encore en 68. Donc, je n'ai pas fait partie de cette génération-là. Je n'ai pas été Mao, je n'ai pas été... Donc, on est arrivé à un moment, sur ces décombres, il restait ça. Il restait la fraternité humaine et la manière, effectivement, de, non pas de changer le monde, mais peut-être de le rendre un petit peu moins dur, quoi. Ouais.
Autre décor d'enfance, avec vous, Eric Emmanuel Schmitt, vous avez grandi à Lyon. Vous parlez de Lyon comme cette ville où l'on ne montre rien. Ouais. Il y a quelque part, je vous cite, une façade sénatoriale qui cache aussi mes folies intérieures.
Oui, c'est-à-dire... le Lyonnais a toujours l'air tout à fait honorable.
Oui, c'est ça. C'est les pires, en fait.
Les pires.
Non, mais...
les plus riches, les plus complexes. Mais moi, je sais que voilà, un jour, j'ai écrit un texte qui s'appelle Autoportrait sous forme d'une ville, où effectivement, je montre ce que j'ai de lyonnais, c'est-à-dire effectivement cette allure comme ça, ronde, respectable, qui peut abriter derrière après tous les vertiges ou toutes les folies. Et puis, ce rapport au temps aussi du lyonnais, c'est-à-dire moi, quand j'allais au lycée, je traversais le Vieux Lyon, donc un quartier médiéval et de la Renaissance. Je montais, je passais devant l'amphithéâtre romain. Au loin, j'apercevais les tours de la Part-Dieu, furieusement modernes, qui venaient d'être construites. Et j'arrivais dans mon lycée, qui était un ancien couvent du 19e siècle.
Ouais.
Un Lyonnais marche chaque jour dans plusieurs époques à la fois.
Alors c'est marrant parce qu'on parlait de la figure du grand-père qui a compté pour Jean-Christophe Ruffin. Vous aussi, je crois savoir que votre grand-père François, c'est ça,
oui,
qui était artisan joaillier... C'est, vous en parlez même comme votre professeur de patience et d'humilité.
Ben oui, parce qu'il était joaillier sertisseur, c'est-à-dire qu'il ne dessinait pas les bijoux, il les réalisait ou il les réparait. Des fortunes lui passaient dans les mains. Lui n'a jamais gagné des fortunes, il était artisan. Et il était à son atelier de 9h du matin jusqu'à 19h le soir. Et je le voyais immobile, patient, passionné, parce qu'il avait la patience de la passion. Hein, parce qu'il n'y a que quand on est passionné qu'on est patient. Et surtout, il faisait une chose qui me fascinait, et j'ai pris la leçon beaucoup plus tard. Chaque soir, il décrochait le tablier qui était accroché sous l'établi, qui récupérait la poussière d'or. Et chaque soir, mon grand-père défaisait ce tablier et mettait dans une pipette en verre la poussière d'or. Et moi, je moquais de lui. Je lui disais, mais papa,
qu'est-ce que tu fais, papy ?
Il n'y a rien, il n'y a rien. Et il me prenait un petit sourire pour me dire, tu verras, tu verras. Et il est mort à 64 ans, je crois. Et ma grand-mère s'est retrouvée, donc qui aimait passionnément mon grand-père, s'est retrouvée donc non seulement veuve, mais avec une retraite de veuve d'artisan, c'est-à-dire la moitié de rien du tout. Or, la poussière d'or avait permis de fondre 6 lingots durant toute sa vie.
Ah oui,
et donc,
joli.
Elle a vécu de la poussière d'or jusqu'à la fin de ses jours.
D'où la patience.
D'où la patience et l'idée que le temps est notre allié. Mmh. C'est-à-dire que grâce au temps et au travail qu'on peut développer dans le temps, on peut arriver à faire de la poussière d'or.
Joli ça. Hein. Des parents profs de sport,
oui.
Champion sportif aussi.
Oui, ma mère surtout, championne de France.
De course à pied, c'est ça ?
De sprint, son record a mis 20 ans à être battu. Ah oui, grande championne.
Et vous, là, le virus
Ah, moi, je cours très bien, oui.
Ah,
je,
oui.
Mais je suis...
C'est
moi,
marrant comme ça.
Ouais, j'ai pas l'air de
courir. Non, je sais pas.
J'ai l'air de rouler, c'est ça, vous voulez dire ?
Pas du tout.
Non, moi, j'ai la devise de Churchill, no sport.
C'est ça, la santé.
Non, je suis assez paresseux, mais j'étais doué.
Voilà. J'aime beaucoup le...
Oui, hein, vous voyez, quand on ment...
Ça s'entend. Alors forcément, vos guides spirituels à vous, la musique, vous en parliez tout à l'heure, Mozart, la philo, Diderot, vous étiez étudiant en philo à l'ENS, à l'École Normale Supérieure à Paris, et c'est à ce moment-là que vous décidez de percer ce mystère-là.
T'arrives à le jouer ?
Ça, je le joue. Je sais pas qui joue, là.
Ah, c'est Horowitz.
Horowitz.
Ouais. La valse de l'adieu.
C'est drôle, il a précipité de notes d'une façon
oh,
un petit peu bizarre.
Vrai.
Mais oui, je trouve.
On va peut-être vérifier. Parce que drôle, c'est quand vous rencontrez cette fameuse prof, là, Madame Pilinska, le premier cours, glacial. Enfin, plus d'un se serait cassé.
Oui, parce qu'elle
n'a pas payé, hein, le
oui.
premier cours.
C'est ça. Ouais. Oui, ça, c'est ce qu'on apprend, ce que j'apprends à la fin du cours. Mais le premier cours, elle me dit, couchez-vous sous le piano. Je me dis, dans quoi suis-je tombé ? Et en fait, c'est parce qu'elle dit, le piano, c'est une expérience physique. Et vous devez ressentir les vibrations. Et j'avoue que moi, je joue à peu près tous les jours. Et mes chiens viennent toujours se mettre sous le piano à queue, pour ressentir les vibrations de la musique. Et puis, à la fin de cette première leçon, où je touche juste le piano pour jouer justement ce morceau, la valse, là, et très mal. Et donc, elle me fait taire très vite. Et elle me dit, oui, comme première leçon, puisque vous habitez rue d'Ulm, à l'École Normale Supérieure, allez au Jardin du Luxembourg et allez présentez-vous à 7h30 le matin pour cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée. Voilà, pour avoir la délicatesse du toucher, pas besoin de toucher un piano.
Et jeter des cailloux dans le bassin aussi.
Voilà, ces leçons me reliaient à toute la nature et en fait, elles essayaient de ces leçons transformer cette espèce de jeune étudiant volontariste, un peu bulldozer, fonceur que j'étais, un être un peu plus délicat, c'est-à-dire qu'elle avait vu un poète à l'intérieur du bulldozer.
Mais il fallait un petit
et
peu...
Voilà, elle a fait le tri, elle m'a permis voilà, d'avoir une sensibilité plus fine, d'être plus attentif au monde, plus attentif aux autres, surtout. Et donc, c'était des leçons de musique, mais c'était des leçons de vie.
Elle vous donnait un autre conseil qui est assez joli, c'était réfléchissez à votre porte.
Oui.
La porte d'entrée, votre porte à vous.
Qui... Je crois qu'on a chacun une porte.
Et qu'on la voit pas forcément toujours bien
celle
ouverte.
Avec ou... Celle derrière laquelle il y a le couloir avec lequel on va explorer le monde. Elle a compris avant moi que c'était
pas
la
forcément
musique.
La musique.
Je jouais pas mal, mais bon, voilà. Et elle avait compris que c'était l'écriture.
C'est ça.
Voilà.
Comme quoi, on a besoin aussi de gens pour nous montrer et ouvrir les bonnes portes.
Au bord de l'eau,
pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quelle drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse, là-bas. À présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps et tôt, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas, reposé. Viens là, le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Arrive-t-il d'un pays lointain, ce volatile au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Je te mets à bruit des lourds lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des lourds lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux.
C'est Feu Chatterton sur France Inter dans tes rêves.
To be or not to be.
Dans tes rêves.
That is the question.
Laurence Garcia.
Et bien accompagné ce soir dans leurs rêves avec les écrivains Jean-Christophe Ruffin et Eric Emmanuel Schmitt, que ce soit à travers des leçons de piano réelles, un thriller diplomatique, inventé, fiction ou auto-fiction. Quelque part, l'un et l'autre, vous revisitez aussi les concepts d'héroïsme, de courage, de lumière, pour y voir un petit peu plus clair dans ce monde parfois bien bien sombre et obscur. Jean-Christophe Ruffin, votre héros anti-héros, là, ce fameux consul Aurel, qui a pas forcément la tête et le job de l'emploi. C'est l'éloge quoi, du courage de, du type anticonformiste, empathique, qui quelque part se débrouille malgré les institutions, malgré une vision du monde.
C'est surtout une certaine tendresse pour des gens qui, à première vue, sont des incapables. Lui, il est dans un placard. Tout le monde considère qu'il est bon à rien, ce qui est d'ailleurs vrai. Donc, tant qu'on lui confie des tâches qui l'ennuient, il les plante pour qu'on le laisse tranquille. Il ne s'intéresse qu'à sa musique. Alors, c'est vraiment un rêveur, pour le coup. Il serait très, très bien chez vous, Aurel. Mais en même temps... Et moi, j'ai connu ça un peu comme chef de poste. J'avais beaucoup de collaborateurs. Il y a toujours quelqu'un comme ça qui, tout le monde dit, celui-là, il est capable de rien. Puis quand on le met dans certaines situations, il peut se révéler extraordinairement inventif, brillant, généreux, etc. Voilà.
Eric Emmanuel Schmitt, on parle d'héroïsme, de courage. Vous en aviez souvent parlé. Vous faites le pari de l'optimisme en disant voilà, l'optimisme quelque part ou le pouvoir de l'émerveillement, c'est aussi un combat contre soi-même et l'héroïsme vis-à-vis de soi-même aussi, parce qu'il y en a marre d'entendre ces visions sombres.
C'est d'être tout optimiste. Sait ce qu'est le pessimisme parce qu'il est pessimiste à 30 ou 35% et que de même qu'au fond tout pessimiste sait aussi ce qu'est l'optimisme parce que ça lui est arrivé d'être optimiste. D'ailleurs la plupart des pessimistes que je connais parlent pessimistes, mais vivent optimistes. Hein. Ils mettent leurs enfants dans les bonnes écoles, ils espèrent leur réussite, etc. Donc, ils sont quand même très, très optimistes dans les faits. Mais quand ils ouvrent la bouche, non, attention, c'est la vulgate de l'époque, la vulgate pessimiste, etc. Non, j'ai découvert que l'optimisme était un combat. Mmh. Je ne vois pas l'intérêt de déprimer ses contemporains. Je ne vois pas l'intérêt de se placer du côté du néant plutôt que du côté de l'être.
Mais pour vous, il y a aussi tout un côté, vous l'avez raconté, un éveil spirituel aussi, ça, cet optimisme. C'est peut-être aussi une aventure philosophique hein, pour l'ex-prof de philo que vous êtes, mais spirituel aussi.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai été aidé dans mon trajet vers l'optimisme par le fait que, oui, effectivement, j'avais raconté ça dans la nuit de feu.
Nuit de feu.
C'est une expression qui vient de Pascal. Mmh. C'est-à-dire la nuit où, dans le Sahara, complètement perdu, j'avais, au lieu d'éprouver la peur, reçu une confiance absolue qui s'appelle la foi. Mais on peut être optimiste sans avoir la foi. C'est juste une affaire de, je dirais, le pessimiste et l'optimiste font le même constat. Ça ne va pas.
Et donc ?
Le pessimiste baisse les bras, il consent lâchement, en ajoutant « et demain ça sera pire ». Et l'optimiste, lui, relève les manches en disant, et ça me fait plaisir de dire ça en face de Jean-Christophe Ruffin, en disant qu'est-ce qu'on peut faire dans la désillusion du politique, dans la désillusion des idéologies, dans l'idée que finalement les solutions dont plusieurs générations ont rêvé ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ridicule, peut-être, c'est minuscule, peut-être, c'est perdu d'avance. Peut-être, mais les plus beaux combats trouvent leur raison d'être non pas dans la victoire, mais dans la raison du combat. Mmh. Et donc, l'optimisme, pour moi, me paraît maintenant quelque chose... Quand j'ai découvert que c'était un combat d'être optimiste dans un monde pessimiste, regardez, lisez la presse, je lisais même d'ailleurs les critiques de cinéma ou les critiques littéraires, cette pièce d'une noirceur délicieuse. Ouais. Oh, j'aimerais qu'un jour on parle qu'on parle d'un texte, d'une luminosité
incroyable,
contagieuse.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ça me ferait plaisir, je me
peut-être
dis tiens.
Le noir se vend mieux, mais.
Il y a un impensé, il y a un impensé de notre époque.
Non, je suis pas sûr que ça, le noir se vende mieux, non. Non, je crois pas. D'ailleurs, on a les exemples vivants tous les deux, et merci de nous avoir réunis de ce point de vue.
Je suis un petit peu fait pour,
fait partie des auteurs qui apportent justement à leurs contemporains, et Emmanuel vient de le dire brillamment, mais un peu de. Je sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas quelque chose de solaire, si vous voulez. Moi, j'utilise toujours des. Alors là, j'ai un. Ce anti-héros, mais qui n'est pas du tout sombre. D'ailleurs, c'est pour ça que je récuse le terme de polar, parce que le polar est souvent très noir. Oui. C'est pas du tout un roman noir, c'est un roman plein de lumière, plein de chaleur, plein de... Mais l'un et l'autre, on apporte ça, on essaie de faire ça. Et du coup, les lecteurs nous suivent, parce qu'ils ont besoin de ça, et qu'ils n'en trouvent pas. Ils ne trouvent pas cette force d'optimisme, justement, il la trouve pas beaucoup dans ce qui s'étale sur les tables des libraires, malheureusement. Enfin, je dis ça sans critiquer personne.
Oui, mais justement, vous, par exemple, Jean-Christophe Ruffin, on parlait tout à l'heure des causes perdues, à un moment donné, où, vous avez dit, les mouvements humanitaires, vous venez du monde humanitaire, on pourra pas changer le monde en mieux. Est-ce qu'au final, la littérature, la fiction, c'est pour vous une manière de renouer avec ce solaire qui, finalement, n'existe pas?
Certainement. Non, ce livre-là, référence à mes tout premiers livres, qui n'était pas noir d'ailleurs, mais qui au fond mettait en face à face dans le contexte de l'Érythrée des jeunes gens qui venaient pour justement une mission humanitaire, et puis qui était fasciné par ces vieux Italiens qui étaient arrivés, qui n'étaient pas du tout des fascistes, qui étaient des pauvres gens, qui étaient arrivés avec les armées de Mussolini et qui étaient restés là un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils étaient tombés amoureux, ils vivaient avec des femmes du pays, ils avaient fait souche dans un pays qui n'était pas le leur. Voilà, il y avait une fascination entre les deux, mais c'était pas noir du tout. Mmh. Et après, moi, très vite, étant médecin, j'avais évidemment à me colter avec la souffrance, avec la tragédie de la vie, et que quand j'écrivais, c'était pas pour y retourner, si vous voulez, c'était au contraire pour apporter à moi-même d'abord, et aux autres aussi, par le même biais, évidemment, les lecteurs, leur apporter, au fond, les livres que j'avais envie de lire, c'est-à-dire qui me sortent justement de la tragédie. Et un beau jour, j'ai découvert que finalement, je me souviens, c'était un déclic avec un livre qui s'appelle Les Mémoires de Lorenzo da Ponte, le librettiste de Mozart, qui a écrit des mémoires, des fraîcheurs extraordinaires, parce que au fond, il est arrivé des tas de tragédies à ce pauvre homme, mais il les a traversées avec une espèce de bonheur qu'on ne trouve qu'au XVIIIe siècle. C'est pour ça que je suis très sensible à l'évocation que fait Éric-Emmanuel Schmitt de Diderot, parce parce que moi aussi j'aime Diderot à cause de ça, parce qu'il y a ce bonheur chez lui.
Bonheur de vivre, de penser, d'innover, de prendre des risques dans la pensée, mais sans jamais déprimer ses contemporains.
C'est quoi la grande aventure philosophique de demain alors? Et là je m'adresse à l'expert en philo et Diderot que vous êtes, Eric Emmanuel Schmitt.
Mais vous savez, je crois que plutôt qu'une grande aventure philosophique, c'est la grande aventure spirituelle. Parce que la philosophie, c'est finalement une conception un tout petit peu réduite de la vie spirituelle. Puisque la philosophie, réduisant le discours à la pure rationalité, il se trouve que beaucoup de choses ne sont pas appréhendables dans les termes de la pure rationalité. Donc je crois qu'il vaut mieux parler du rapport spirituel.
C'est ça la troisième voie tant recherchée, spirituelle ou pas.
La beauté et la faiblesse de la philosophie, c'est de dire que de tenir un discours qui se veut rationnel, c'est-à-dire qui vaudrait en soi et pour tous. Or, on sait très bien que non, on n'y arrive pas. On fait de la philosophie pour trouver la vérité et pour répandre la vérité. Et puis finalement, plus on fait de la philosophie, plus on devient un veuf de la vérité. Alors moi, j'ai choisi, après Diderot, d'être un veuf joyeux.
Non, c'est pas mal. Voilà. La veuf joyeuse, très bien joué.
C'est-à-dire de me dire, oui, je ne saurais pas tout. Oui, il y a des mystères que je n'arriverai pas à percer. Oui, une partie de la vie m'apparaîtra toujours comme une énigme. Mais ne pas savoir ne va pas assombrir mon chemin et ne va pas m'empêcher d'intervenir dans le monde et d'essayer d'éclairer le plus de choses possibles. Donc, l'aventure philosophique, c'est l'aventure c'est une volonté de savoir avec la conscience totale du fait qu'on sait qu'on ne saura pas.
Je vais la noter, celle-là, elle est un peu longue.
Je vous la donne au sujet de dissertation.
C'est ça, oula, je suis pas sûre d'avoir la moyenne.
Vous avez 4 heures.
Oui. Allez, moi je vote pour les veuves joyeux, en tout cas, c'est bien.
Heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny,
Gay Sunny sur France Inter, et c'est bien
dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai?
Laurence Garcia.
Des lunes à décrocher ou pas, avec ce soir Eric Emmanuel Schmitt et Jean-Christophe Ruffin. Messieurs, il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, vous voyez, on a déjà tamisé un peu le studio, mais là je vais vous demander de vous mettre dans votre noir intérieur et pour de vrai, de fermer les yeux. Allez hop, vous me répondez les yeux fermés. Jean-Christophe Ruffin, dans vos rêves les plus fous, voilà, vous pouvez recroiser cet ancien vous, ce gamin qui était élevé par ses grands-parents, qui s'interrogeait sur ce qu'il allait faire plus tard, l'héroïsme, le destin, tout ça. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil avec du recul à ce môme?
De pas avoir peur. ne pas avoir peur. Je crois que c'est ce qu'on peut donner de plus aux enfants. Et c'est peut-être que un enfant dans les conditions où j'étais, c'est-à-dire très isolé, sans père, etc., manquait de ça. Voilà.
Ne pas avoir peur. Éric Emmanuel Schmitt, ce môme là aussi, fils de prof de sport, qui était déjà passionné par Mozart, par les philosophes, vous lui dites quoi ?
De ne pas croire que la vie soit si longue que ça. Et donc, dès le départ, de profiter de chaque seconde, de profiter de chaque instant. De ne pas attendre de connaître la mort des proches, l'agonie même de proches, pour se rendre compte que chaque seconde est précieuse.
Profite pour l'un et n'aie pas peur pour l'autre. Toujours les yeux fermés. Jean-Christophe Ruffin, dans vos rêves du tout est possible, vous pouvez réveiller un célèbre défunt, artiste, aventurier, intellectuel, historique, pour un petit gueuleton imaginaire, ou tiens, pourquoi pas une partie d'escalade comme ça dans vos montagnes là-haut, ce serait avec qui ?
Bah, c'est pas pareil, parce que c'est pour un gueuleton, pas une partie d'escalade.
Ou gueuleton après !
Non, moi, il y a un personnage que j'aurais beaucoup aimé rencontrer qui s'appelait Tita Piaz, qui est un grand alpiniste italien des Dolomites, qui a ouvert des voies que j'ai gravi pour une part, enfin certaines d'entre elles. Et je lui ai consacré d'ailleurs un article, parce que il a écrit un livre qui s'appelle Le diable des Dolomites. Voilà. Et j'aurais bien aimé le connaître, celui-là.
Celui-là. Éric Emmanuel Schmitt, réveiller un célèbre défunt, je sais pas, peut-être pour le coup, peut-être pour une pièce imaginaire, l'inviter sur votre scène à vous, de théâtre, ou pas.
Comme ça, l'idée, vous me dites réveiller un défunt, moi je rencontre Mozart.
Ah bah forcément.
Et je m'occupe de lui.
Ah bon ?
Je m'occupe de son argent, j'essaye d'arranger ses dettes, j'essaye de faire en sorte qu'il ne court pas après les commandes, qu'il ait du temps. Et je l'emmène chez le dentiste, je l'emmène chez le médecin, et Mozart meurt à 90 ans.
Alors à la fois médecin, expert comptable...
Oui, parce que quand on rencontre quelqu'un comme ça, on se met à ses pieds.
Ah ouh, le fameux tout à l'heure, esclave, hein, c'est ça.
Esclave du génie, oui, c'est que...
Pour que Mozart dure plus longtemps.
Vous me faites penser à la femme de Fellini, vous savez, Giulietta Masina. Un jour, on lui dit, c'est pas fatigant de vivre avec un génie. Elle a répondu, moins que de vivre avec un imbécile.
Oui, c'est peut-être pas complètement faux. C'est bon, vous pouvez réouvrir vos lumières intérieures, rallumer vos yeux. Ça va ?
Oui, vous êtes toujours là.
Bah oui, non, je n'ai, pas disparu. N'étions pas des fantômes. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Pour cette rencontre croisée, vous êtes racontée à travers l'autre, pour continuer de rêver et de voyager avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. Il y a Madame Pilinska et le secret de Chopin, c'est chez Albin Michel, une super prof et leçon de piano, leçon de vie, d'amour et de philo. Jean-Christophe Ruffin, les aventures de Aurel, le suspendu de Conakry, c'est chez Flammarion. Il est toujours à l'affiche, hein, le film Le Collier Rouge au cinéma,
ouais,
me semble-t-il.
Oui,
adapté de votre roman.
Voilà. Adapté par Jean Becker.
Avec notamment François Cluzet.
Exactement.
Merci messieurs, belle nuit, bon rêve, à bientôt. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci l'acteur-écrivain Jacques Weber et le chanteur-auteur Maxime Le Forestier. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.